le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public, notre fidèle, formidable public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les vieux fourneaux de la critique, Daniel Ehmann.
Oui, bah oui, oh, bah oui. Bah oui forcément.
De bande à part, Xavier Le Harper qui a quelques cheveux blancs, de Septième Obsession... Nicolas Chalère de l'Obs et enfin Jean-Marc Lalanne, le plus jeune d'entre nous, des Inrecuptibles pour parler des films de Lee Chang-dong, Spike Lee, Marion Vernoux, Christophe Duturon, Nicolas Philibert, Alex Lutz et Camille Vidal-Naquet. Dans le courrier de la semaine, le moins qu'on puisse dire, c'est que Le Poirier Sauvage de Nouribil Djellal partage nos auditeurs. Ceux qui n'aiment pas, c'est Madame Renée Ménagou, qui est sorti au bout d'une heure et demie. Ennui, longueur des scènes, effet facile sur la campagne. Je ne comprends pas votre concert de louanges. Ou Daniel Le Montariol, heureusement, qu'Éric Neuhoff a exprimé ce que j'ai ressenti. Un ennui mortel où les discussions byzantines sur le sexe des anges doivent friser chacune la demi-heure. Monsieur ou Madame Albron m'écrit que les dithyrambes de mes compars sont parfaitement déplacés. Quand on ne peut s'intéresser au personnage principal, sa quête de sens laisse parfaitement indifférent. Eric a heureusement remis les choses à leur place. C'est toujours un plaisir de le voir démolir les films prétentieux. En 30 secondes, il l'a mis à la bonne hauteur, à ras de terre. Marie-Laure Bâtard de Strasbourg. Eric semble le seul doté de discernement. Xavier, j'aurais en effet eu envie d'en finir au plus vite et de me jeter dans ce puits sans fond tant certains dialogues interminables en deviennent insupportables. Jérôme Duvivier juge que Le Poirier Sauvage est un film bavard, faussement profond, plastiquement pas exceptionnel, assez prétentieux et pour tout dire, ennuyeux. Voilà, et puis à la salle de ceux qui aiment, heureusement, Vincent Bazin loue un film d'une grande plasticité avec une belle lumière et une parfaite mise en scène. Courez voir ce film d'une grande intelligence et vous en sortirez grandi. Martin Caro de Paris approuve, oui, les films de Djellal se méritent. Oui, on décroche parfois, mais c'est pour mieux y revenir. Réaliser à la fin la limpidité de son propos. Amis auditeurs du Masque et la Plume, n'ayez pas peur. Et pour Mick Labelle, eh bien, les 30 dernières minutes de ce film superbe trouvent leur justification. Richard Howard a aimé, lui, la confrontation existentielle sobre entre un fils et son père, et surtout les sources d'inspiration de Djellal, Tchekhov, Dostoïevski, qui ajoutent du poids au dialogue. En revanche, le même Richard Howard trouve que Le Monde est à toi de Romain Gavras est une daube à faire pleurer, non pas de rire, mais devant pareil misérabilisme intellectuel, les répliques insultantes font mal aux oreilles et les acteurs hurlent tout le temps. Pour Pierre Cuzor, c'est filmé, là on parle du Gavras, hein, à la truelle par un clone de Luc Besson. Et pour Jacqueline Banton, qui habite l'Isère, qui n'est pas plus tendre, dans Le Monde est à toi, les personnages sont caricaturaux et l'intrigue peu crédible. Auriez-vous au masque recommandé ce film sans la présence de célébrités comme Adjani ou Cassel? Question.
On l'a surtout commandé pour Karim Leclou, qui est un excellent comédien et qui mérite d'être connu.
Et enfin, Séverine Alice de Paris, merci à Jérôme d'avoir prévenu en préambule. C'est quand même très, très Guerrici. Et même si c'est plutôt réussi, ça reste quand même du Canada Dry, une copie française de l'original anglaise. Pas indispensable, donc. Et puis, comme beaucoup d'auditeurs, Éric Bonnefille du Vésinet, ou Michel Ferry de Marseille, ou encore Philippe Milliot, apporte une précision historico-cinéphilique. Ce gaussant, je dis bien ce gaussant de la reconstitution du Paris des années 30 dans Papillon, Éric Neuhoff et Xavier Le Harper ont affirmé que le Moulin Rouge cinéma n'avait jamais existé. Or, Xavier, ce fut bel et bien une salle prestigieuse de l'époque, ouverte fin 1929. Tu te souviens?
Bien juste entendu.
À côté du bal du Moulin Rouge.
Bien entendu.
Et voilà. Et qui survécut jusqu'en 1980. N'empêche. Il eut lieu notamment la première des Croix de Bois de Raymond Bernard en mars 32, en présence du président Paul Doumer et de Michel Simon. Non, il n'y a pas Michel Simon. Non, mais comme quoi, tu vois, les auditeurs sont quand même de bons historiens des salles de cinéma.
Ah, mais je le reconnais. Je ne me souviens pas que nous ayons affirmé, comme tu sembles le dire, avec autant de certitude, que le cinéma n'avait pas existé. On s'interrogeait sur l'existence de ce cinéma. Oh. Mais pour une fois que j'étais d'accord avec Eric Neuhoff, tu peux au moins saluer l'exploit. Hein.
Eh bien, justement, Chloé Gélin nous remercie pour finir. Nous remercie pour les émissions de cet été, parce que le masque ne s'est pas arrêté. Et nous demande de continuer de vous chamailler, comme vous l'avez fait pendant cette saison. Allez, on commence avec le film de Spike Lee, qui a obtenu cette année des mains de Cate Blanchett le Grand Prix à Cannes. Black Klansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan avec John David Washington, qui est le fils, je le rappelle, de Denzel. Et Adam Driver, ils incarnent respectivement les deux flics, l'un afro-américain, l'autre juif, qui en 78, puisque l'histoire est vraie, ont infiltré à Colorado Springs la branche du Ku Klux Klan, Ron Stallworth, qui est Washington, opéré au téléphone. D'ailleurs, il a tellement bien réussi son coup qu'il est devenu un des patrons locaux de ce mouvement raciste et suprémaciste. Et quand il devait apparaître en chair et en os, eh bien, il envoyait son copain Flip Zimmerman, qui est Adam Driver. On peut dire la vérité, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un film regardable de Spike Lee. Là, il s'en tire plutôt correctement. Il manie à la fois le pamphlet, l'humour, la colère et le rire. Et puis, il pointe sa caméra un peu lourdement, in fine, vers l'Amérique de Trump avec les événements de Charlottesville. On voit même apparaître, j'ai cru que c'était un... Il sortait du musée Grévin, Harry Belafonte, 91 ans. Et puis, ce qui est quand même au second degré assez drôle, l'imitateur numéro un de Trump, qui est Alec Baldwin. Jean-Marc.
Alors, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Je trouve le film très faible.
Moi, j'ai pas été non plus.
Oui, mais enfin, effectivement, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu de film de Spike Lee très réussi. Pour moi, le dernier, c'est Inside Man, qui est un film de commande extrêmement virtuose.
Moi, c'est Those Wild Things, tu vois. Donc,
c'est ah oui, c'est encore. Il y a beaucoup plus longtemps. celui-là, je le trouve vraiment pas bien du tout. J'ai l'impression que ce qui explique le Grand Prix qu'il a eu à Cannes, c'est vraiment une adhésion idéologique au film avec laquelle on ne peut être que d'accord. Mais je trouve que tous les procédés du film sont très très lourdingues. Je trouve que le choix de la farce et de la caricature est très malencontreux et que du coup le film est aussi bas que la manière dont il caricature ses personnages. C'est-à-dire que je trouve que le film tape très bas.
Ah oui,
et c'est
violent,
pas forcément un bon calcul en fait de vouloir absolument ridiculiser sans rien leur laisser les personnages qu'on vise, parce que du coup je trouve que le film se vautre dans une sorte d'extrême lourdeur et que en guignolisant les personnages qu'il veut attaquer, il les rend presque inoffensifs. Et du coup, je trouve que comme satire politique, comme un pamphlet politique même, le film est assez inopérant parce que beaucoup trop grossier dans ses procédés. Et en plus, moi, je le trouve assez peu efficace comme comédie. C'est-à-dire que je trouve que c'est tellement énorme, les ressorts comiques, que ça ne me fait absolument pas rire. J'étais vraiment navré que Spike Lee, qui a fait des films comme assez forts, notamment The Right Thing, évidemment, se vautre comme ça.
Xavier,
je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marc, d'autant plus qu'il a adapté donc le livre.
Ah oui, vous êtes très dur, donc l'un et l'autre.
Oui, parce qu'en plus, Jean-Marc a doublement raison. Déjà, effectivement, en termes de cinéma, cette caricature est inopérante et du coup, c'est pas intéressant parce que le Ku Klux Klan est quand même beaucoup plus menaçant que ces espèces de pantins qu'on voit venir de partout. Et quand moi j'ai lu le roman, le livre plus
exactement,
parce que
c'est tiré des mémoires de l'inspecteur Ron Stallworth.
Absolument, qui vient d'être édité chez Autrement. Et le film est contenu dans les 20 premières pages où il raconte effectivement comment il est arrivé avec sa coupe afro de 2 mètres d'envergure et comment on lui a posé une minuscule casquette sur la tête et qu'il avait l'air ridicule. La première partie, on dirait un peu les drôles de dames version black, quoi. Il arrive, il a plein d'ambition, puis on lui confie des dossiers à ranger et à dépoussiérer. Mais en même temps, ce que raconte le bouquin, c'est la manière dont dans les années 70, le Ku Klux Klan a essayé de revenir au premier plan, idéologiquement, avec une espèce de façade, comme ça, de respectabilité, comment ils ont réussi à infiltrer beaucoup de mouvements. Les mecs sont pas des imbéciles, sont vraiment des gens dangereux, sont des gens qui possèdent des moyens à la fois techniques, intellectuels.
Et tu trouves que le film dit le contraire de ça?
Oh bah c'est des imbéciles, c'est quand même des grossiers personnages,
ils
sont pas fins, on les voit venir à 8 km. Enfin, tout ça sert des scènes de comédie qui sont un peu pataudes. La plus réussie, c'est la première, pour une fois je pourrais compter non pas la fin mais le début, c'est Alec Baldwin qui s'essaye à un discours idéologique, mais même là c'est trop long, il y a des plans de coupe qu'il aurait vraiment fallu opérer sur le film.
Ça n'est compréhensible que si on sait ce que fait comme imitation Baldwin.
Alec Baldwin, voilà, imite depuis l'élection élection, Donald Trump au Saturday Night Live, et il est absolument brillantissime.
Il est très drôle.
Et là, avec des images derrière lui en noir et blanc, il sait ça, il y a un discours raciste, mais déjà respectable. Le cœur du film est là, c'est-à-dire qu'on sent qu'il corrige des mots, il essaye d'avoir des mots un peu moins forts, un peu moins violents, parce qu'effectivement, à cette époque-là, Claude Puissant a essayé de revenir. D'ailleurs, Papa Trump y était, hein, cette grande époque, donc il faut un petit peu le rappeler. Bon. Et après le film... Moi, à la fin, je suis beaucoup plus violent que toi. Je trouve ça d'un opportunisme douteux. Raccorder Charlottesville, après cette comédie qui donne l'impression d'être un pilote de série télé.
Oui, c'est un peu anecdotique, tout ce qu'on a vu avant. C'est vraiment le deux poids, deux mesures.
Vas-y, mais prends la parole. J'adore que tu...
Non, mais j'essaie.
Nicolas Chaleur, c'est ça?
Et Daniel aussi, quand même.
Non, mais alors, moi, je serais un petit peu plus indulgent, parce que je trouve que quand même, j'aime bien l'idée de traiter sur un mode de farce, avec un côté assez décontracté. Il y a un côté Starsky & Hutch, un côté buddy movie dans ce couple de personnages.
Oui, mais c'est un peu plus grave que ça, quand même.
Plus grave. Et le vrai problème, c'est qu'il travaille, la dialectique du film travaille vraiment sur l'idée de la représentation, comment Hollywood a représenté la communauté depuis que Hollywood existe. Donc, il s'en prend concrètement à Autant d'emporte le vent, Naissance d'une nation. Il y a vraiment
Le greffier s'en prend plein la gueule. Hein.
Il y va. Et en même temps, lui-même utilise les armes qu'il condamne. C'est-à-dire que faut quand même savoir que par exemple, dans le livre, l'acolyte de Stallworth n'est pas juif. Il en fait un juif. Alors, il y a quand même plein d'arrangements comme ça avec la réalité qu'on pourrait, à notre tour, lui reprocher. Et de la même manière, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il caricature tellement les racistes qu'à un moment ça devient un peu...
Ils sont pas inquiétants, ils sont pas dangereux.
L'accusation politique est un peu stérile, quoi, effectivement. Donc, je trouve que le problème, c'est c'est le prix à Cannes. Je trouve que le prix à Cannes donne une importance
au film.
Le grand prix à Cannes donne une importance au film.
Et puis la longueur, 2h10.
Voilà. Il aurait fait une série télé un peu plus développée, un peu plus construite. Il y a vraiment cette...
Daniel, le grand prix, toi non plus, tu ne l'aurais pas.
Pas du tout. Non, je pense que le grand prix, c'est ce qu'on éprouve, ce que j'ai éprouvé aussi, c'est une espèce de soulagement. Enfin, Spike Lee fait un film. Et quand même, qui reste relativement estimable. Alors, c'est vrai que l'histoire est tellement forte, l'histoire vraie est tellement énorme, qu'elle pouvait être traitée comme elle s'est déroulée, et pas, en effet, dire « Oh, on peut aussi rigoler ». Alors, effectivement, c'est tellement pas jamais dans la nuance, jamais. Alors, effectivement, le flic black, évidemment, a une petite amie qui est au Black Power. Alors, il faut évidemment avoir des plans du Black Power, mais très doux. Le Black Power a toujours été d'une douceur infinie. Oui, plus ou moins. Donc, effectivement, il tombe absolument volontairement dans tous les panneaux pour nous dire ce qu'il a envie de nous dire et qui est la pure caricature de tout. Du Black Power en douceur, des racistes en caricature. Ils sont tellement drôles. Non, ils sont pas drôles. Ils sont jamais drôles. Voilà. Donc, effectivement, on est soulagé qu'il ait fait un film qui se tient, parce que quand même, il faut pas non plus dire que c'est un mauvais film. C'est un film qui raconte une histoire tellement énorme que on est intéressé. On s'ennuie pas et quand même...
Comment est-ce qu'il marche, d'ailleurs, le film? Il marche bien.
Et le jeune Washington est bien quand même.
Eh bien, c'est BlacKkKlansman de Spike Lee. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public? Non. Autre film qui était à Cannes, mais qui lui, en revanche, est reparti honteusement en bredouille. Je dis honteusement parce que c'est aux grandes dames du Masque et la Plume quand on a fait l'émission en direct ce jour-là. Eh bien, c'est Burning, du coréen Lee Chang-dong, un film de 2h30 adapté d'une nouvelle de Murakami, elle-même inspirée de L'incendiaire de Faulkner. Ils sont connus enfants, ils se retrouvent par hasard. Lui, c'est Jong-soo, un coursier dont le père élève des vaches et qui rêve d'être écrivain. Elle, c'est Amy, qui excelle dans la pantomime. Elle doit partir en voyage et elle lui demande de s'occuper de son chat. Enfin, de son illusion de chat. Quand elle revient, c'est pour lui présenter Ben, qu'elle a rencontré en Afrique. Ben, c'est un drôle de personnage, une sorte de Gatsby coréen, à la fois mytho, pyromane, qui roule en Porsche, comme Xavier, et dont le passe-temps favori consiste à brûler les serres en plastique. Ce que tu ne fais pas, je crois, toi.
J'ai arrêté.
T'as arrêté.
Mais après un long traitement.
T'as eu une grosse tendance.
Oui,
hein.
Oh là là.
Quand on disait serre en plastique, t'étais assez violent.
Non, j'avais des pulsions. Hein.
Et ils vont former un étrange trio avec cette scène d'anthologie où Amy danse nue devant ces deux hommes sur la musique d'ascenseur pour l'échafaud. La fin, évidemment, même Daniel ne va pas la raconter.
Comme si...
Non, mais j'aime bien faire tourner un peu la culpabilité.
D'accord.
Burning, très grand film, non, Nicolas?
Alors, j'ai un peu déçu, j'avoue. Alors, je considère Lee Chang-dong comme un des très grands réalisateurs coréens.
Ça, et... quand on fait ce préambule-là, oui, en voilà. général, ouais, ça annonce le vol-là.
C'est comme le supplice du pal, hein. Ça commence bien, ça finit mal.
Non, mais je trouve que tout ce qui, alors, il a toujours, c'est toujours les mêmes thèmes. Moi, j'aime beaucoup la première partie du film. C'est-à-dire que dès qu'il filme le personnage de Jeo Jong-seo, qui est la jeune femme, et qu'il filme ce triangle amoureux, où il y a des non-dits, on ne sait pas trop ce qui se trame, il y a ce rapport toujours la question de l'attention au monde qui est très belle. Où est-ce qu'on trouve la poésie dans notre quotidien? Où est-ce qu'est l'art? Parce que
comment on l'invente
aussi.
Cette scène où elle mange une mandarine, oui. Elle est extraordinaire, évidemment, qui n'existe pas.
Voilà, puisque c'est la pantomime.
Mais Marceau n'a plus qu'à les rhabiller. Hein.
Voilà, tout ça, je trouve ça très très beau. Oui, c'est que Lee Chang-dong, il travaille l'ellipse, il travaille comme ça des moments flottants et
une sensualité.
Alors je trouve que la deuxième partie du film qui va plus dans un thriller,
qui est plus dans le polar là, oui.
De la lutte sur la lutte des classes, sur les rapports de classe en Corée. Je trouve qu'il y a un volontarisme dans le scénario, moi, qui me gêne et qui est en total contraste avec la finesse de la mise en scène et la finesse qui se joue au début. Et ce jeu sur l'imaginaire, est-ce que ce qu'on voit est vrai, est-ce que c'est le personnage qui s'imagine les choses, je le trouve quand même tracé par un scénario avec l'histoire des cerfs, justement, que je trouve amené quand même un petit peu de manière assez appuyée. Je dis appuyée dans le contexte d'un film de Lee Chang-dong, encore une fois, hein. C'est-à-dire que je trouve que il y a quand même des marqueurs assez voyants et je trouve le film aussi assez dilué. J'avoue, je suis allé le revoir après Cannes parce que je avec tout ce que j'entendais comme louange autour de moi, j'étais étonné de pas aimer ça parce qu'encore une fois, je trouve que Poetry, où il y avait aussi ces mêmes thèmes de ces personnages marginalisés qui sont presque trop sensibles pour s'intégrer à la société, il y a vraiment toujours cette idée de trouver sa place dans la société. Tous ces thèmes sont passionnants et je trouve que là, il y a un volontarisme
partie polar dont tu parles, qui est essentiellement la seconde partie, est très fidèle au texte de Murakami. Daniel.
Moi, je suis absolument enthousiasmée par ce film que j'ai trouvé vertigineux, envoûtant. Oui, d'accord, le héros est écrivain ou se rêve écrivain. Il se veut écrivain. Et c'est une piste, évidemment, que le film en fil rouge très discret suit. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses. Et se passent-elles ces choses? Et les voit-on comme elles se passent? Effectivement, cette jeune femme, elle demande en effet à ce garçon de garder son chat. Et donc, ça l'ennuie un peu, mais enfin bon, il va habiter chez elle. Et effectivement...
Elle le récompense joliment quand même.
Oui, absolument.
Elle le récompense très joliment.
Plutôt agréable.
Bon, donc il se trouve obligé d'aller garder ce chat. Et en effet, là où le film est génial, c'est que lorsqu'il arrive dans ce petit appartement, il y a un placard où il y a effectivement des croquettes pour le chat. Et puis une petite gamelle pour le chat. Et même une petite caisse où le chat, bon, voilà. Sauf que ce chat existe-t-il? Ce qu'on voit, existe-t-il? La vie est-elle celle que l'on voit ou celle que l'on croit?
Et il y aura beaucoup de scènes qui sont sur ce principe-là. Hein.
Et je trouve que ce film, du début à la fin, est d'une intelligence, d'une finesse, et d'un rêve et d'un envoûtement complet. Et franchement, effectivement, lorsque tout à coup ça devient réaliste, croit-on? Est-ce que ces cerfs vont brûler?
Et selon une esthétique qui est quand même particulièrement raffinée, Xavier.
Moi, Jean-Vi Nicolas, qui a l'air plus intelligent que moi d'avoir vu ce scénario dans la deuxième partie.
Mais il est plus intelligent que toi. Ça, c'est
évident, de toute façon. Parce que moi, je me suis fait avoir deux fois à ce film, que j'aime énormément.
Où ça, tu t'es fait avoir?
Parce que moi, je ne vois pas ces espèces de marqueurs comme ça, comme les a vus Nicolas. Mais encore une fois, je lui donne sans doute raison, puisqu'il a un QI nettement supérieur au mien. Mais je trouve que la mise en scène, dans cette deuxième partie, alors que la première partie est effectivement plutôt réaliste, caméra à l'épaule, on suit les personnages dans des plans séquences, la rencontre, par exemple, avec cette jeune fille qui est en train de livrer des paquets dans le centre commercial devant lequel elle travaille en aguichant des passants. Toute la deuxième partie est beaucoup plus sensorielle, elle est beaucoup moins théorique, elle est beaucoup plus comme une volute de fumée.
Oui, mais c'est là que l'intrigue se...
Mais c'est pour ça, c'est pas deux parties qui scénaristiquement se rencontrent, c'est deux mises en scène aussi qui se complètent. Effectivement, la première partie marque énormément de choses. Tapis, c'est également l'intrigue de mystère, d'opacité, de doute, d'inquiétude. Mais en même temps, la deuxième partie qui va changer complètement de modalité de la mise en scène, comme si la danse au soleil avait d'une certaine manière un peu irradié la pellicule. On va plus voir les choses de la même manière. manière, on ne va plus les entendre de la même manière, on ne va plus les suivre de la même manière.
Et vers quoi va-t-on ?
Les ambiguïtés, voilà, sont nombreuses. Il va y avoir des scènes de thriller, mais on sent bien que tout ça est un peu ailleurs. Et jusqu'au bout, même en l'ayant vu deux fois, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je suis sûr d'avoir été nourri.
Je suis très contente de ne pas avoir
tout
compris.
D'un film absolument passionnant, d'un grand réalisateur.
Qui est parfois à la limite du fantastique,
oui,
je trouve.
Mais absolument, et c'est ça qui est formidable. Et c'est porté par un acteur. Alors lui, oublier le film au palmarès est un acte impardonnable, mais oublier ce comédien qui s'appelle You Are In, qui est extraordinaire, qu'on croit un peu bené comme ça, et qui a un travail sur le regard qui diffracte, comme ça, qui va au loin, qui regarde ailleurs, qui semble être totalement en dehors de ce monde, et qui en même temps chope des choses, et qui va se reconcentrer dans une des scènes finales. Ce mec-là est un acteur de génie, mais de génie. Elle est bouleversante, rôle extraordinaire. Stephen Yeun, qu'on connaît très bien pour la série Walking Dead, est absolument magnifique dans ce rôle de Gatsby. Mais lui, ce qu'il fait, au loin, avec une façon d'imprégner la pellicule, le cadre, l'interaction avec la mise en scène. Enfin, moi, c'est un acteur que j'ai eu un bonheur à découvrir. Et je trouve que c'est un grand Lee Chang-dong.
Jean-Marc.
Oui, c'est vraiment très bien. Et c'est surtout extrêmement maîtrisé. Et maîtrisé aussi bien au niveau de la conduite du récit. Le film aurait vraiment pu avoir le prix du scénario. Mais aussi le prix de la mise en scène. Parce que c'est vraiment un modèle en termes à la fois d'efficacité et de mystère. C'est-à-dire que, effectivement, il manipule le spectateur. Il réussit vraiment à nous captiver tout de suite, alors qu'il se passe au début presque rien. C'est tout de suite haletant. Et en même temps, ça reste toujours opaque et mystérieux. On a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose, alors qu'on est complètement accroché par le récit. Donc, je pense que c'est peut-être son meilleur film. Enfin, il a vraiment atteint une forme d'accomplissement de son cinéma. Ça fait un peu penser à une sorte de Claude Chabrol asiatique, à la fois sur la question...
Plans de Claude Chabrol étaient moins sophistiqués que...
Alors, peut-être il compensait par le fait qu'il avait plus d'humour. Mais, alors, parce que là, il n'y a quand même pas beaucoup d'humour. Mais en tout cas, non, moi, je pense qu'il y a quand même des films de Chabrol des années 70 qui sont impeccables en termes de mise en scène. Et je trouve qu'aussi bien sur la critique sociale, sur la lutte des classes, qui est quand même quelque chose que Chabrol a beaucoup traité, que sur la capacité à faire une sorte de thriller psychologique intimiste très puissant, il y a quelque chose de profondément chabrolien dans le film.
L'histoire de la Corée récente, avec le personnage du père, la Corée du Nord,
les 3 kilomètres de la ferme. De Lee Chang-dong.
Une richesse sans nom.
Qui le masque donne à l'exception de Nicolas, qui
est tellement plus intelligent que nous.
Donne un prix. Vous n'allez pas revenir toute la soirée là-dessus.
C'est
évidences qu'il faut accepter. Des réactions sur ce film dans le public. Oui, en haut du studio, le micro vient vers vous.
Et ça a très bien démarré.
Oui, il marche très bien.
Ouais. Absolument. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
Bonsoir.
Bonsoir. Moi, je suis assez d'accord avec Nicolas Chalère. En fait, j'étais assez emporté par la première partie.
Vous n'êtes pas de sa famille.
Non. Non, il n'y a pas de risque. J'étais assez emporté par la première partie.
Il n'y a pas de risque.
Mais pourquoi?
Non, je disais ça comme ça. Que j'ai trouvé très subtil et assez formidable. Mais en même temps, j'ai trouvé que le film était une violence suggérée assez forte, ce qui fait que moi, personnellement, à la fin de la représentation, j'étais assez... je sentais une sorte de malaise, quoi. À cause de cette violence, de ce mystère qu'on sent poindre tout au long du film, qui après explose à la fin. Mais pour moi, le malaise, il était présent déjà avant, en fait. Voilà.
Merci pour votre intervention. Une autre intervention en haut du studio, Charles Trenet. Madame, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je tenais juste aussi à ajouter une petite note dissonante, comme Nicolas Chalet, puisque pour moi, le film était aussi... assez long, assez interminable en fait.
2h30, je le rappelle.
2h30 pour une nouvelle, je le rappelle aussi. J'ai ressenti la même chose que le personnage à la Porsche, c'est-à-dire lorsqu'il bâille alors qu'il est dans l'amusement permanent. Il y a des images magnifiques, beaucoup d'analyses. Quand on analyse le film par la suite, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire. Mais pendant le film, moi j'ai trouvé ça assez long.
Merci de votre franchise. Merci. Il s'agissait donc de Burning, de Lee Chang-dong. Bonne surprise, là je parle en mon nom, là, de la semaine. Eh bien, parce que je ne m'y attendais pas forcément, c'est Guy, d'Alex Lutz, avec Alex Lutz, Tom Dingler et Pascal Arbillot. Et Alex Lutz, qu'on ne présente plus, ce n'est pas la Catherine de Catherine et Liliane sur Canal. C'est ici Guy Jamais, un chanteur ringard ayant eu son heure de gloire dans les années 60 jusqu'à 90, et puis ayant eu aussi un AVC. Il sort un album de reprise, il fait une dernière tournée, et il accepte qu'un jeune documentariste, Gauthier, cet homme Dingler, le suive, le filme, sans savoir que c'est en réalité son fils, dont évidemment il ignore l'existence. En chemin, on croise Julien Clerc, Dany, Nicole Calfan en attaché de presse, Marina Hans en chanteuse, Nicole Ferroni, Alessandra Sublet et même Michel Drucker. Lutz, alors chacun évidemment lui prête un visage qu'on connaît ou pas. Moi je le vois entre la, c'est la tête de Guy Bedos qui me rappelle en même temps le chanteur Daniel Guichard. Vous voyez,
c'est juste.
Daniel Guichard quand
oui,
même,
oui,
non
c'est juste.
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que comme dit jamais, eh ben on voit que Lutz c'est monté à cheval, et là-dessus, j'ai un œil de lynx, si j'ose dire, et il le monte vraiment bien. Voilà. Non, c'est vraiment une surprise. Je m'y attendais pas, Xavier.
Eh ben, moi, j'étais comme toi, je ne m'y attendais pas. J'avais beaucoup d'espoir, même si le précédent film, le premier film d'Alex Lutz, dont le titre m'échappe, avait été très décevant.
Le talent de mes amis.
Le talent de mes amis. Merci beaucoup, Nicolas Chaleur. Définitivement beaucoup plus intelligent.
Ou alors. Il a les références.
Oui, il a ses notes, elles sont mises à jour, alors que moi, effectivement, j'ai rien du tout. Et quand le film a commencé, j'ai dit, bon, un capital sympathie immédiat. Moi, j'y vois un mix entre Michel Sardou, Patrick Juvet,
toi, c'est plutôt... un peu de Clo-Clo.
Un peu de Clo-Clo. Ah oui, il y a un petit peu de Clo-Clo, même il y a une scène savoureuse où il range ses 45 tours, il dit, mais pourquoi j'en ai un de Clo-Clo? Il chantait du nez, c'était insupportable, j'aimais pas du tout ce qu'il faisait, puis un jour, il a voulu changer d'ampoule, ce qui est quand même très très drôle et pas très gentil, donc tout à fait de mon goût. Et pendant les 10 premières minutes, je me suis dit, mais ça va pas tenir, c'est un sketch, c'est un postulat, comment le réinventer? Et en fait, il le réinvente. Et j'ai revu le film avec justement le plaisir de savoir qu'il allait jusqu'au bout de sa réussite, donc j'ai encore plus apprécié son travail très délicat de direction d'acteur, de mise en scène, de reconstitution.
Et puis lui, parce que ça n'est pas que du grimage.
Ah non, pas du tout. Il compose un vrai personnage.
Il y a un vrai personnage. Les silences même sont éloquents.
Et puis, il aime les comédiens, il ne vole la vedette à personne. Il partage l'écran avec une générosité absolue. Marina Hans,
il vole quand même la vedette un peu à Alessandra Sublet, sans difficulté.
Oui, mais j'aime bien Alessandra. Mais un clip avec Marina Hans, genre Peter et Sloan, où il a une moustache qui n'a aucune une époque qu'il n'était possible de porter, et elle, géniale, avec une perruque choucroutée, c'est une apparition de 2 minutes, et c'est une apparition qui est très drôle d'abord, et puis il se passe toujours quelque chose, un deuxième temps à la dernière des séquences comiques, une mélancolie qui arrive, une nostalgie, une délicatesse. Pascal Arbillot, qui est une comédienne que j'aime beaucoup, qui arrive avec ses deux petits chiens chihuahua ridicules dans le hara.
Mais qui, donc, qui joue la femme.
Qui joue la femme, voilà. On se dit, bon, ça va être la blondasse pétasse, un peu idiote, et puis finalement, elle a une vraie personnalité, il se dégage quelque chose. Nicole Calfon est radieuse, elle est belle. On retrouve même Julie Arnold, oui, de Marc et Sophie.
Mais il y en a plein,
mais il les aime, il les accompagne.
Pierre, je trouve que le maquettiste qui a inventé les fausses pochettes,
mais tout est réussi.
Jamais, mais
ce mec est un prodige. La partition est réussie, c'est-à-dire que la variété qu'il interprète. Non, elle a ses vraies références dans les années 70.
On croit effectivement qu'elle existe. J'en ferai pas une BO pour la.
Non. Ce qui est intéressant, c'est même les changements de style.
Les trois versions de sa chanson préférée.
Des choses un peu.
Et ce qui est très beau, c'est qu'il finit avant que Nicolas Chaleur prenne la parole, j'étais plus intelligent, mais néanmoins, c'est que, et c'est là-dessus que je terminerai, la vraie histoire de ce film-là, c'est le pouvoir de la variété française. Quand il chante Montréal de Charles Bois, c'est bouleversant.
Mais c'est lui qui chante vraiment.
Il chante vraiment, il est extraordinaire.
Je le précise.
On ne peut pas avoir que des Barbara, on ne peut pas avoir que des Juliette Gréco. Il y a de temps en temps des chansons qu'on a entendues à la radio qui nous ont accompagnés et qui nous fendent le cœur en deux, même si elles sont un peu ridicules, même si elles sont un peu ringardes. Elles se sont patinées avec l'âge, elles se sont patinées avec notre âge. Et je trouve que c'est un hommage à cette variété française. Incarné par Mylène Farmer,
Daniel,
évidemment.
Non.
Ben, j'en ai profité, là.
Tu pouvais terminer sans.
Tu pouvais citer sans.
J'attendais que tu me tendes la perche, rien. Donc, je vous passe tout, moi, ici.
T'as tout gâché.
T'as pas gâché mon émission. Daniel, ma question est très sérieuse. Tu as bien connu les chanteurs de cette époque-là. Non, ma question est sérieuse.
C'est sérieux.
Je voudrais savoir.
Et Fréhel, elle était comment, Fréhel?
Non, arrêtez, non, mais. Pour une fois, je pose une question sérieuse.
Non, mais c'est vrai.
Est-ce que ça te semble fidèle à ce qu'ont été les chanteurs?
Non seulement ta question est tout à fait pertinente, mais l'homme de ma vie, mon mari, qui s'appelait Jean Berthelin, était chanteur et musicien, et il était de cette époque-là, évidemment.
De gros succès.
Et donc, effectivement, j'ai connu tout ce que Guy Jamais connaît, c'est-à-dire le succès, et puis le moins succès, et puis le vieillissement, et tout ça est d'une authenticité. Sans jamais de mépris, sans jamais d'ironie.
Il y a même de l'émotion, je trouve.
Et c'est pour moi, c'est un film qui est en même temps, c'est à la mode, qui est drôle et quelquefois amer, qui est cruel et nostalgique, et qui est ringard et superbe. Et il réussit ça. Il faut donner un petit bon point au maquilleur, parce que franchement,
c'est un boulot de d'artiste,
les prothèses, il y avait 5 heures de maquillage, c'est-à-dire que effectivement, il est totalement vieilli, totalement méconnaissable, mais pas seulement parce qu'il est maquillé. C'est de l'intérieur et il est là avec ses chansons. À la fois, il y en a une qu'il répète souvent dans le film, et c'est « Je reviendrai peut-être ». Et il revient, et c'est tout le parfum de cette époque-là qui revient, mais avec une justesse et une délicatesse absolument.
D'où ma question.
Oui, c'était bien ça.
Merci de ta réponse très sincère et émue, Nicolas.
Je vais pas en rajouter énormément, parce que c'est vrai que pour le coup au début moi j'avais vraiment très peur, parce que justement les prothèses, je les trouve qu'on les voit les prothèses, qu'il y a quelque chose de d'artificiel.
Et non, c'est Michel Drucker, je vous
pas du tout. Lui s'assoit.
Et c'est pour moi tout le génie à la fois transformiste et vrai de lui, c'est qu'il arrive à créer une vérité sous ses prothèses et à transcender ça par une justesse de jeu. Faut le voir comment il se remet la commissure des lèvres, comment il replace sa mèche,
la bouche légèrement ouverte aussi régulièrement. Il y a un très joli geste.
Et il arrive, voilà,
et
il arrive vraiment.
La position des jambes à cheval est parfaite.
Et voilà, il arrive vraiment à incarner il y a vraiment les désillusions de toute une vie un peu ratée qui ressortent. Et pour moi, c'est un peu, on parlera après de Sauvage, mais c'est vraiment c'est un acteur qui rencontre un sujet, et c'est vraiment ça, je trouve, qui fait la force du film. Parce qu'on peut lui reprocher peut-être un filmage un peu platouné à certains moments, mais c'est justifié par le côté de documentaire, comme on dit, parce que c'est un genre qui est pas en plus beaucoup traité en français, le documentaire. On appelle ça en mockumentary en anglais. C'est-à-dire, c'est faux documentaire sur des personnages fictif, mais qui en même temps essaie de le faire paraître réel.
C'est une bonne idée, non?
Et c'est une formidable idée. Mais voilà, ça permet de justifier aussi un filmage un peu, parfois, un peu platouné. Mais c'est pas grave, parce que vraiment, c'est le film, c'est le personnage et c'est Lutz. Et c'est tout ce qu'il arrive à incarner de l'imaginaire collectif que représentent tous ces chanteurs.
De la nostalgie, de ce dont on se souvient.
Ouais, je dirais même que la réussite, c'est de faire exister deux personnages. Il y a le personnage de Guy Jamais. Effectivement, on sait qu'il est très fort. On le sait même dans Catherine, en fait. Ouais. Pour effectivement construire un personnage sur un déguisement et en même temps de le nourrir de l'intérieur, qui fait que finalement on ne voit plus le déguisement, mais qu'on voit une vraie complexité humaine à l'œuvre. Mais outre que Guy Jamais est très réussi, je trouve que le personnage du fils qu'on ne voit jamais, puisqu'il est toujours hors champ, en même temps existe. Et que cette dimension de refiliation d'un fils qui cherche son père, elle est très réussie. Et la surprise du film, c'est que c'est vraiment à peine une comédie. C'est parfois drôle, mais c'est plutôt presque un mélodrame, en tout cas vraiment un drame familial extrêmement que Lutz prend absolument sérieux.
Ne le dis pas trop, parce que sinon les gens n'iront pas. Il y a quand même aussi.
Ah, moi je pense que le point fort,
matériau
c'est
d'une comédie,
que le film soit touchant, que drôle, et parce que même dans la manière dont il pastiche la variété des années 70 et 80, il le pastiche sans la parodier. Non, on sent vraiment qu'il a été un enfant téléphage qui a adoré ces images, et il les régurgite avec une vraie affection. Et donc moi je trouve surtout le film très émouvant.
Moi, j'étais triste pour toi, parce qu'à aucun moment il ne rencontre Chantal Goya. Je pensais que ça allait, qu'on aurait cette rencontre-là, mais malheureusement. Je suis content, parce qu'on est tous à peu près du même avis. Et la bonne surprise de la semaine, c'est Guy d'Alex Lutz. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non, pas encore. Si, une réaction. Bonsoir.
Moi, je l'ai vu cet après-midi. J'ai trouvé le film sur deux points. Je suis encore dans l'émotion. Il est bouleversant et virtuose. Il est bouleversant parce que ça n'a pas été dit si par Jean-Marc, parce que le film est tourné du point de vue d'un fils qui regarde son père. Et le père, grosso modo, l'essentiel du film va ignorer cette paternité. Donc, enfin, j'ai trouvé ça vraiment bouleversant. Ce rapport au père, c'est exceptionnel. Et le côté virtuose, dans les scopitones, dans les reconstitutions, il y a des mises en abîme qui sont démentielles. C'est-à-dire que non seulement il fait des citations des variétés des années 70, donc il y a des citations évidemment à Claude François, d'autres d'Herbert Léonard, notamment le tube érotique, c'est vraiment du pur Herbert Léonard. Et donc il y a une espèce de double mise en abîme comme ça de Claude François, d'Herbert Léonard, c'est vraiment virtuose.
Merci d'ajouter votre enthousiasme au nôtre. Guy, donc, d'Alex Lutz, on va aller un peu plus vite avec les films qui viennent, parce que le temps passe. Voilà, Bonhomme, le film de Marion Vernoux avec Nicolas Duvauchel et Anna Girardot, mais aussi Béatrice Dalle, que je vois pour la première fois à la tête d'un institut de beauté. Jusqu'à maintenant, elle ne faisait pas ça. Et François Rollin dans le rôle d'un médecin de quartier que je n'irais pas forcément consulter.
Si, il distribue les arrêts de maladie comme ça.
En fumant comme un sapeur.
C'est plutôt sympa.
Oui, ça se passe dans une ZAC lilloise. Marilyn, c'est Anna Girardot et caissière chez Gosport. Piotr, c'est donc Nicolas Duvauchel. Il vend des cuisines chez But. Il s'aime. Il se chamaille, évidemment, comme tous les couples. Et puis un jour, ils ont un accident de voiture. Marilyn conduisait, elle s'en sort bien, mais Piotr subit un traumatisme crânien. Et quand il sort de l'hôpital, il va pas bien. Hein. Il oscille entre aphasie et apathie, exaltation et violence. Et il est en plus, comme Xavier, affligé d'une hypersexualité qui le fait bander du matin au soir. Le film raconte comment Marilyn...
Faut que je vous laisse, d'ailleurs, pendant 5 minutes.
Le film raconte comment Marilyn va l'aider à recouvrer une existence presque normale et même offrir, ça c'est la fin du film, enfin presque la fin, à ses copines dans le besoin, son compagnon très priapique dans le rôle cul par-dessus tête au sens propre, et bien c'est Duvauchel que j'ai trouvé épatant. Girardot dans un rôle plus sacrificiel, très bon aussi, un couple qui ne parle plus vraiment la même langue, mais qui reste soudé, Xavier, à jamais, n'est-ce pas ?
Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film. C'est vrai que je l'ai regardé en me disant, est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir? Est-ce qu'elle va réussir à aller jusqu'au bout? Non seulement elle va jusqu'au bout, mais en plus l'écriture, tu l'as très bien résumé, et il manque un truc très important. C'est-à-dire qu'elle est sacrificielle, cette femme, mais elle n'est pas compassionnelle. Quand elle est responsable de l'accident et qu'elle est à l'hôpital, elle y va de moins en moins, par exemple, ses copines.
Mais il y a même un moment où on se dit, elle va partir.
Mais voilà, tu y vas une fois par semaine, c'est-à-dire qu'elle a un rapport dans le déni, dans la culpabilité sans doute. Donc déjà, il y a un personnage qui est extrêmement intéressant. Duvauchel est magnifique, la scène où il se réveille, où il est face à son psychothérapeute. Il construit un personnage qui, là aussi, aurait pu être d'une lourdeur, d'une caricature, il n'y verse absolument jamais. Les retrouvailles, Béatrice Dan, Nicolas Duvauchel, elle le bouffait dans le film de Claire Denis, Trouble Everyday. Maintenant, elle le couve. Et en même temps, elle le domine dans une scène qui est absolument hilarante dans le salon de beauté. L'humour est constamment là, mais ce qui sauve le film de son principe, comme tu l'as dit, effectivement, il veut baiser tout le temps et il y en a un moment où, effectivement, l'épouse, même si c'est son, entre guillemets, devoir, en a un petit peu ras-le-bol. Marion Vernoux ramène toujours le film dans le concret. C'est-à-dire comment travailler, comment sauver son emploi, comment continuer à pouvoir faire les deux, à assumer les deux, c'est-à-dire cet enfant qui baisse, cet enfant qui bande tout le temps, cet enfant violent, cet enfant qui fait des bêtises. Et elle est la dernière à ramener de l'argent. Il faut absolument qu'elle garde son truc dans une ZAC. Et je trouve que la description du monde des employés, à la fois But, effectivement, Gosport, est très juste, avec les petits sous-chefs qui la menacent. Et jusqu'au bout, elle arrive à rapporter du concret, du social, du sociétal, dans cette histoire. Du coup, l'humour est édulcoré. Mais il est toujours présent, bien évidemment. On n'est jamais dans le glauque, on n'est jamais dans le misérabilisme. Et je trouve le film d'une force, outre son interprétation, en termes de mise en scène et d'écriture, tout à fait remarquable.
Jean-Marc.
Je suis un peu quoi, parce que je m'attendais pas à ce que le film soit défendu. Moi, je m'y mets un peu tombé des yeux et je le trouvais extrêmement saugrenu. En même temps, j'ai très peu de choses à dire tellement il m'a semblé dépourvu d'enjeux et ce parti pris de faire un film très feel good, très comédie sur un épisode extrêmement dramatique, c'est un coup de force qui ne produit à mon avis pas grand chose, sinon une comédie qui rend tout artificiel. La souffrance du personnage incarné par Duvauchel, on la voit pas, quoi. Je vois pas non plus le handicap, je vois un numéro de clownerie inégalement drôle, et du coup il y a une fausseté qui me semble, aussi bien dans leur couple que même dans l'environnement professionnel du personnage de la Girardot, il y a une volonté de tout repeindre en rose pimpant qui me semble très très artificielle.
Nicolas.
Moi, je suis un peu aussi le film. Je l'ai vu, mais m'a un peu parti comme ça. Je l'ai vu un petit moment et j'arrive pas à trouver ça drôle. J'arrive pas non plus à trouver ça assez bouleversant.
Mais ça se veut pas drôle non plus.
Je vois très bien les intentions. Je vois ce qu'essaye de faire Marion Vernoux et les intentions me plaisent plutôt bien, justement, de jouer comme ça, de raconter une impasse. C'est-à-dire, c'est vraiment un film qui fait du surplace. C'est parce que elle se retrouve avec cet amoureux handicapé et qu'elle est démunie, désemparée. Sauf que moi, pour moi, le film fait un peu du surplace. Je trouve ça manque de rythme, ça manque de cinéma et tout bêtement, je trouve que quand il y a un recours à des montages musicaux pour montrer, parce que on va pas trop dévoiler, mais à un moment il finit par faire des passes. Enfin, on va pas dire comment. Il y a deux scènes comme ça dans le Sanctuaire de Beauté, puis après dans l'appartement. Je veux pas en dire trop. Alors là, il y a des montages musicaux pour raconter un peu ça. J'arrive pas à savoir s'il faut que je ris, s'il faut que je trouve ça pathétique. Je suis dans un entre-deux comme ça que je trouve le film a l'audace de l'essayer, mais pour moi je ne comprends pas trop.
Daniel.
Non, moi j'aime assez ce film. D'abord, je trouve que les deux acteurs acteurs s'en sortent de façon étonnante parce que c'est pas facile. Je veux dire, ni l'un ni l'autre n'ont un travail facile. Bon, le handicap, pour que ce ne soit pas caricatural, exagéré, c'est très difficile. Et elle ne le quitte pas des yeux, et donc c'est très compliqué. Et moi, ce que j'aime avec, effectivement, des scènes un peu répétitives, bon, je trouve que c'est un beau film sur la résilience et sur la fidélité. Il n'y a pas tellement de films sur la fidélité. Elle ne voit pas l'homme qu'il est devenu, elle voit l'homme qu'elle aime. Et donc, c'est une histoire d'amour un peu particulière, un peu bancale, c'est le cas de le dire, mais qui a pour moi une vérité.
Je ne trouve pas qu'il joue, comme dit Jean-Marc, que le cérébro-lésé, ce qui est quand même très particulier.
Oui, oui, et en effet, la conséquence...
Je trouve que c'est plus subtil que ça.
C'est ça, bon. Et la conséquence, en effet, est de cet ordre.
Bonhomme, c'est donc le film de Marion Vernoux, Sauvage, le premier long-métrage de Camille Vidal-Naquet, qui était à la semaine de la critique à Cannes, avec Félix Mariteau qui était lui Max dans les 120 battements par minute, et Thierry dans Un couteau dans le cœur. Au moins on voit ici, il est donc Léo, un homo drogué de 22 ans qui a le visage tuméfié, le corps très abîmé, et qui se prostitue tout en cherchant l'amour, qui accepte d'embrasser mais qui refuse de donner son prénom, qui se vend à des jeunes comme à des vieux. Le film est cru, rythmé par les visites médicales de Léo. Évidemment, on pense forcément à L'homme blessé de Chéreau et aussi au cinéma de Pasolini. Dites-moi pas trop longuement si ce film vous a plu, Nicolas.
Oui, c'est un film vraiment étonnant sur un sujet qu'on voit quand même pas si souvent traité de manière aussi frontale et aussi. C'est vraiment là, c'est à la fois une prostitution homosexuelle, c'est quand même, c'est aussi un SDF, ce personnage est un peu une page vierge sur laquelle s'écrit la loi de la survie. Et ce que je trouve beau, c'est vraiment la rencontre, comme on disait sur Guy tout à l'heure, d'un sujet et d'un acteur. C'est-à-dire que pour moi, même dans ces complaisances que le film n'évite pas parfois, il y a des scènes un peu too much, mais il y a toujours la présence de ce comédien qui est Marito, qui incarne totalement ce personnage vraiment pour le coup très pasolinien. Et dans le côté sordide de ce qu'il montre, il arrive à aller vers une forme de trouver une douceur à certains moments, et de trouver sans jamais être dans la moralisation, sans jamais être dans un regard chercher une rédemption. Enfin voilà, je trouve le film vraiment étonnant par la vérité de ce personnage.
Daniel.
Bon, ce garçon sans passé, sans futur. J'arrive pas vraiment à m'intéresser à ce qui lui arrive, voilà. Oui, il cherche la tendresse et la tendresse lui est refusée. Et il y a un moment où j'ai quitté le sujet du film pour regarder ce jeune acteur avec vraiment un intérêt constant. Voilà, je regardais l'acteur, je disais, il est formidable ce garçon. Il faut maintenant peut-être qu'il fasse une comédie musicale, enfin je veux dire, bon, qu'il devienne un peu plus léger, mais il est remarquable. Et j'étais totalement sortie, voilà, il avait un autre client, et puis un autre client, et puis enfin, il tombe amoureux d'un client qui ne veut pas de lui, mais ça m'est un peu égal.
Avec des scènes assez violentes, d'ailleurs.
Avec des scènes crues, comme on dit. Oui, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup, parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Sauf que cet acteur, vraiment, Félix Mariteau, il est magnifique. Voilà. Bon. Donc j'ai regardé un acteur.
Xavier ?
Moi, sur le papier, le film m'intéressait, parce que cette prostitution crasseuse des bords d'autoroute, des bretelles, c'est pas la prostitution de luxe avec des très beaux garçons. Il est magnifique, mais il est sale, on le dit à plusieurs reprises. Cette histoire d'amour avec un autre comédien qui est très très bien, Eric Bernard, qui partage comme celui, avec lui le trottoir, et une histoire d'amour improbable. L'autre se joue de lui, et en même temps, il y a une vraie fraternité. Il y a des très très jolies choses dans le film, et en même temps, le scénario est rattrapé par son côté sociologie de la prostitution masculine. C'est-à-dire que tous les clients sont là. Nous avons le vieil hétéro marié qui baise avec des garçons sous le portrait de sa femme. Nous avons les deux gays hyper pervers avec des piercings partout. Et à un moment, ce premier degré, cette succession quand même, vire un peu au cliché, vire un peu au catalogue. On a ce... Non, je vais terminer, Nicolas. Tu es intelligent, mais pas poli. Nous avons ce pianiste pervers qui est sorti d'un film de Jean Rollin, erre comme ça dans la nuit avec du piano. Alors toi qui te plaignais dans Bonhomme de la musique qui est surajoutée, là, quand le type roule dans la nuit, on a un petit morceau de piano et on sait qu'il est pianiste.
Mais même les esthétique
oui, bien sûr,
radio. Et parfois, elle est assez, au début, assez impressionnante. Et puis, au bout d'une heure quarante, on se dit que quand même, il y a
l'esthétique plus voilà, et je suis comme Daniel, c'est-à-dire qu'à un moment, ce personnage n'est défini que par cette succession de clients. Et j'ai du mal à m'y intéresser autrement que sous l'angle sociologique et sur 1h40. Mmh. Pour moi, c'est un peu court. Mmh. Mais il y a du talent, à la fois dans la mise en scène et dans les acteurs.
Il y a plus que ça. Pour moi, c'est vraiment une réussite fulgurante. C'est à la fois la révélation...
Inutile de vous dire que c'était Jean-Marc Lalanne.
Toi, tu te venges de bonhomme.
C'est vraiment un premier film où on se dit, tiens, là, vraiment, il y a un cinéaste. Et c'est d'autant plus subtil que ce qu'on se dit d'abord, effectivement, c'est qu'il y a un acteur. Mais c'est pas seulement un acteur. C'est la possibilité pensée par un cinéaste d'une rencontre entre un personnage très fort et un acteur qui finit à s'identifier non seulement à son personnage, mais au film et au cinéma. Je trouve que ce que fait Félix Marito dans le film, la manière dont il laisse un sentiment de présence humaine, on a vraiment le sentiment d'avoir une empathie totale et d'avoir connu quelqu'un comme, pour moi, c'est un peu l'idéal de ce que peut produire un film, quoi. Le sentiment d'avoir rencontré dans toute sa complexité une personne. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de sociologie dans le film, il n'y a pas de backstory, on ne sait pas du tout d'où il vient. Et ces personnages, effectivement, il y a à la fois un handicapé, il y a un personnage âgé, mais en même temps, ils sont pas du tout définis sociologiquement, ils sont tous porteurs d'une énigme, d'un mystère.
Et la recherche, quand même, Jean-Marc, il y a une sociologie.
Moi, je trouve que c'est assez compliqué, par exemple, de voir ce que dit le film politiquement sur les travailleurs sexuels. Est-ce que le film serait pour la légalisation ou contre ? Est-ce qu'il montre ça comme un enfer ou pas ? Je trouve que le film est extrêmement subtil dans ce qu'il dit sur la question politique des travailleurs sexuels. Je pense pas du tout qu'il soit idéologue, dogmatique. Mais je pense qu'il crée vraiment une densité de cinéma très forte.
On n'a pas dit ça.
Hein. Il parle de sociologie et de d'un côté quand même. Enfin, c'est ce que tu dis, je crois.
Je trouve que oui, le scénario se construit sur une sociologie de la prostitution masculine. Avec
je pense que le film dépasse tout le temps son scénario. C'est-à-dire que je pense qu'il imprime vraiment du cinéma par la
première version
par
3 heures,
sens moi, de la géographie.
J'adorerais voir la version de 3 heures parce que je suis sûr qu'elle est offrée en termes de romanesque. Il y a tout, on est bien d'accord, en friche. Mais deux scènes de danse trans, tu vois, j'ai l'impression que là aussi c'est un passage obligatoire. Il y a quand même un peu du cahier des charges. Mais je suis ravi que tu aies aimé et désolé de ne pas d'assez.
Sauvage, c'est le film de le premier de Camille Vidal-Naquet. Une petite poignée de minutes, vous me dites ce que vous pensez des Vieux Fourneaux, qui est l'adaptation pépère, vous le savez, par Christophe Duturon, de la BD sur le troisième âge, qui compte 4 albums de Lupano et Coé, avec la crème des Vermeils, Pierre Richard, 84 ans, Eddie Mitchell, 76 ans, Roland Giraud, également 76. Voilà, trois amis d'enfance qui vont partir pour l'Italie, suivi par la petite fille d'Antoine qui est Alice Paul et qui veulent empêcher Antoine, c'est-à-dire Giraud, de commettre un crime passionnel 50 ans plus tard. Une opinion rapidement, Jean-Marc.
C'est nul et gérontophobe, ce qui est très étrange. On voit dans le monde que c'est un film marketé pour un public senior qui donne une leçon de morale au troisième âge extrêmement désagréable.
Nicolas.
Comment dire, moi qui ai souhaité appeler au retour de Pierre Richard et qui revient depuis 4 ans, je commence finir par le regretter vu les choix qu'il fait. Après, j'avoue que le plaisir de le voir lui et Roland Giraud, qui sont quand même plutôt assez amusants, parce que lui c'est quand même le plus vieux de la bande et c'est celui qui a le plus de pêche. Après voilà, c'est un film qui avance à la vitesse d'un Solex et qui met des gros coups de frein dès qu'il y a un petit enjeu de scénario.
Ah non, il y a voiture bon plus vite dans le film. Hein. Il y a des moments
oui,
où
oui,
ça.
Bah, oui, mais je parle du récit. Vite. Je parle de voilà. Oui. Bon, c'est vu les réserves que j'ai mis sur les films précédents, je peux pas.
Je commence à m'inquiéter parce que tu as dit le bonhomme, je trouvais ton indulgence bien intrigante. Daniel,
en qualité de témoin qualifié, je dois dire que j'ai pris un certain plaisir à cette pochade, à ce road movie improbable. Ils se régalent tous les trois. Il y a à la fin dans le
tu
rôle.
Tu trouves qu'ils se régalent, toi ?
Oui, ils se régalent. Je te dis qu'ils se régalent, moi.
C'est fou, ça.
Et bah, c'était quoi les salaires ?
Apparition sublime de Henri Guibet dans le rôle du méchant patron.
Oui.
Brève mais sublime.
Et franchement, voilà.
Et franchement, je trouve que dans ce film qui est certes pas un chef-d'œuvre, la vieillesse ne fait pas son âge.
Xavier,
bah il y a un exploit dans ce film, ça dure 1h22 et je crois que j'ai jamais vu autant de plans
inutiles. Non, 1h25.
Oui, je n'ai rien compris et la pause pipi également. J'ai jamais vu autant de plans inutiles dans ce film. Car en 1h25, non seulement ça n'avance jamais, et en plus on pourrait enlever la moitié des plans, je pense qu'en 10 minutes l'intrigue se tient. Donc c'est vraiment catastrophique.
Eh bien c'est donc Les Vieux Fourneaux, et c'est signé Christophe Duturon. Allez, on peut conseiller des films, mais et avant, dire ce qu'on pense de ce documentaire tout à fait intéressant, je trouve, de Nicolas Philibert, de chaque instant, sur les infirmières, enfin sur la formation plutôt des infirmières et des infirmiers, encore qu'il y ait dans le film, il y a beaucoup plus évidemment de femmes que d'hommes. Il montre bien l'apprentissage de ce très beau et très difficile métier. Moi, ce que j'ai préféré, c'est à la toute fin, quand il filme les témoignages, les bilans de chacun de ces infirmiers en formation. Est-ce que oui, Daniel, tu le...
Oui, tout à fait, parce que c'est en trois chapitres. Oui, c'est ça. En trois chapitres, le technique, le pratique, c'est-à-dire le premier contact avec la souffrance, et effectivement le récit de leur stage. Et on voit que se prépare une vie terriblement difficile, qu'elles seront très 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 mal payées, et que quand même elles sont extrêmement nombreuses et que ça s'appelle une vocation. Et ça, évidemment, Nicolas Philibert le filme de façon parfaitement honnête.
Xavier. C'est ça son point de vue, c'est que c'est comment ce métier sacrifié, sacrificiel, persiste à être attiré autant de gens, des garçons, des filles. Et je trouve la dernière partie, moi par exemple quand j'ai fait métier, on n'avait pas cette partie qui consiste à nous demander si on était fait ou pas. On pensait que la théorie suffisait. Non, la pratique apporte de l'humain, apporte du doute, apporte du questionnement. Et cette partie est bouleversante parce qu'on les a vus au travail, on les a vus accomplir des gestes. Et en même temps, on n'a pas pensé de l'intérieur.
Surtout quand on les voit au début passer de cette formation vraiment avec des mannequins.
Et c'est effectivement la partie la plus forte.
Les corps abîmés.
Parce que c'est déjà une première expérience et déjà une première tragédie.
Jean-Marc ?
Oui, le film procure aussi un vrai plaisir lié à la pédagogie. C'est qu'on y apprend des choses sans arrêt. C'est passionnant là-dessus.
Et Nicolas ?
Je n'ai pas vu.
Tu ne l'as pas vu. C'est vrai que tu étais en train de trouver des vertus au vieux fourneau. Alors, c'est donc De chaque instant de Nicolas Philibert. Allez, le temps est venu des conseils. On va commencer avec Jean-Marc.
L'intégrale de Léo Macaré à la Cinémathèque française, c'est une œuvre souvent réduite à quelques films comme les deux versions de Allez lui ou Place aux jeunes, qui sont des chefs-d'œuvre absolus, mais c'est une œuvre qui comprend une soixantaine de films. Moi, il y en a beaucoup que j'ai pas vu.
Soixantaine de films.
Ouais. Ah, et beaucoup sont très peu connus. Donc voilà, c'est un immense cinéaste qu'il faut vraiment s'immerger dans Macaré.
Le conseil de Nicolas.
Moi, c'est un film qui sort le 5 septembre. Je sais pas si vous allez en parler. Qui s'appelle Scheherazade, qui est un film de Jean-Bernard Marlin et qui est un premier film.
Donc, qui sort ce mercredi, quoi.
Qui sort, oui.
Mercredi prochain.
Et qui est un premier film qui a été tourné avec des jeunes des quartiers nord de Marseille, avec des quartiers donc un peu populaires et des jeunes délinquants. Mmh. Et c'est un très très beau film où Marlin arrive à créer de vrais personnages de cinéma sans du tout gommer la spécificité et ce que sont ces jeunes, c'est-à-dire qu'il les filme vraiment tels qu'ils sont, en tout cas on a sens
ça n'a rien à voir avec la légende de Scheherazade.
Alors Scheherazade, je vais pas m'attarder, mais c'est un des personnages clés du film, parce que c'est un jeune de 17 ans qui sort, un délinquant qui sort d'une prison pour mineurs et qui rencontre une prostituée qui a le même âge que lui, qui est Scheherazade, et il va tomber amoureux. Et il y a vraiment un regard sur cette jeunesse là et une vraie envie de cinéma et de mélanger, parce qu'aujourd'hui c'est un peu une marotte de réinventer le cinéma de genre en intégrant de la caution naturaliste, et là je trouve qu'il arrive à faire quelque chose d'assez beau, ni dans le réalisme glauque un peu facile, ni non plus dans les archétypes du genre, et je trouve que c'est vraiment un très beau film.
Donc attention, le conseil de Nicolas, c'est que mercredi prochain, et c'est Scheherazade. Le conseil de Daniel.
Alors c'est une entreprise effectivement étrange, qui est initiée par Pathé, et qui va se dérouler le 18 septembre, seulement à Paris pour deux séances, dans plusieurs salles de Paris et dans 100 salles en région. C'est un film qui s'appelle Hitler versus Picasso et les autres. C'est extraordinaire, d'un Italien.
C'est quoi,
un documentaire.
Film d'archives.
De Claudio Poli avec comme narrateur Tony Servillo. Et c'est une espèce de polar tragique qui raconte et qui montre le pillage des musées et de tous les collectionneurs juifs. Et la fortune inouïe amassée par les nazis avec des expositions, les expositions d'art dégénéré. Enfin, je veux dire, c'est un panorama absolument sublime. J'ai demandé à Pathé pourquoi c'était deux séances alors que c'est vraiment une chose magnifique. J'ai pas eu de réponse. Si vous pouvez, c'est véritablement formidable.
Xavier.
Un film d'animation japonais, Silent Voice, de Naoko Yamada. C'est l'histoire d'un harcèlement dans le milieu scolaire. Un garçon qui humilie une jeune sourde. Quelques années plus tard, il va tenter de se rapprocher d'elle pour obtenir d'elle son pardon et sa rédemption. Et c'est un film absolument magnifique sur ce fléau, effectivement, qu'est le harcèlement en milieu scolaire au Japon. Mais c'est universel. Et en même temps, l'animation lui apporte une douceur et quelque chose de poignant, quelque chose de bouleversant, quelque chose de très acéré. C'est vraiment l'exemple même où l'animation ne se substitue pas au réalisme et invente encore un autre monde pour raconter des choses justement de notre monde.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Daniel Eman, Xavier Leherpeur, Jean-Marc Lalanne et Nicolas, et l'intelligent Nicolas Chalair, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam, ce soir au Charles Trenet à la technique, et je les remercie, Manuel Couturier, Cédric Chatelus, ainsi que Laurent Binder. La réalisation était signée du très intelligent aussi Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, il aura lieu le vendredi 7 septembre. Attention, c'est cette fois à l'Opéra de Nancy pour deux émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma, et ce sera à 20h. Dans une semaine, donc, on parlera de la rentrée littéraire depuis l'Opéra de Nancy, et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.